Marcia abbiamo con l'anima in spalla, nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà in cammino ci illuminerà. Non
sapevo qual è... Il est midi sur Prune, l'heure de se réchauffer les mains autour d'un feu de joie. Siamo Tutex part à la rencontre des milieux solidaires qui font vivre à leur manière la lutte contre le fascisme. Nous sommes tous antifascistes. Un cri inclusif de rage et d'espoir. Le cri d'une foule puissante de personnes qui agissent chaque jour pour créer des liens et des solidarités. Et c'est à elles que nous tendons notre micro toute l'année. Pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la lutte flamboiera tant qu'il le faudra.
Et bienvenue à tous dans la première de Siamo Tutex, l'émission tout excitée qui va dénicher les graines antifascistes pour planter la forêt de l'espoir. Oui, bon, l'automne arrive, fallait une métaphore nature. Ici, on va vous parler de la lutte antifasciste, mais de manière inclusive, en y intégrant les autres luttes existantes. Vous entendrez chaque mois dans ces micros des membres de collectifs qui détailleront leurs combats. Mais aujourd'hui est jour de rentrée. On va donc rester en groupe restreint avec notre équipe de choc pour dessiner les contours de l'émission et apporter quelques définitions. On va essayer de rendre ça le plus vivant possible, ne quittez pas tout de suite votre poste. Bienvenue donc dans cette toute nouvelle émission, dans laquelle je suis heureuse d'accueillir des chroniqueuses incroyables et engagées. Tendance barbecue, où le patriarcat fait office de saucisse vegan et la colère de brasier de charbon. Reste plus qu'à envoyer la sauce. Je vais commencer le tour des présentations. Je suis Lilia et cette année, je vais principalement animer l'émission et participer aux interviews. Je vais aussi vous dire d'où je parle par souci d'honnêteté, parce que même avec toute la bonne volonté du monde, on est traversé par des biais de construction sociale, alors autant les présenter. Je suis une jeune meuf cis hétéro blanche et valide, issue de classe moyenne. On est donc sur un bon combo de privilèges, le patriarcat en moins. Je cumule aussi une passion pour les blagues et les jeux de mots pourris, dont je vous abreuverai parce que j'adore le partage. Je vais maintenant laisser la parole à l'incroyable Héloïse. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots et nous parler de ton rôle dans l'émission ?
Yes. Hello. Moi, c'est ma première année à la radio et je pense que je serai souvent derrière la console de la technique parce que tous ces petits boutons, là, ça me fascine. Et j'ai très envie d'apprendre à utiliser tous les réglages. Bah ouais, parce que souvent, moi, je suis assez fascinée par les trucs pas du tout sexy, les trucs de l'ombre, genre la compta. True story. Et je serai aussi parfois derrière le micro avec vous les filles. Moi, je m'identifie comme meuf blanche, cis, hétéro, valide plus vraiment tous les jours de l'année, ça dépend. Et j'ai eu la chance de grandir avec pas mal de capital culturel. Et ça, je trouve que c'est une chance.
À côté de toi siège ta formidable compère Céleste.
Salut tout le monde. Alors moi, dans le grand jeu social capitaliste, on peut me situer comme une meuf blanche, valide et diplômée de grande école. Ma passion dans la vie, c'est de transmettre des histoires, donc je pense que je vais partir là-dessus aussi dans cette émission. J'ai un peu l'impression d'être un premier date, mais alors quelques infos pour mieux me connaître. J'ai une passion pour les chansons de rupture mexicaines. J'adore dire « Oh, un chien !» quand je vois un chien. Et je me touche le nez dès que je vois une heure miroir, comme 12h12 par exemple.
Ensuite, vous allez entendre l'inénarrable Louise.
Hello, eh bien, je suis super heureuse d'avoir rejoint l'équipe de Chiamo Tutix pour ramener ma fraise, pour débattre, mais aussi, je l'espère, du sensible, de l'humour et du doux. Mi-classe moyenne, mi-métisse valide, j'ai grandi dans le 19e à Paris, aux côtés de personnes qui venaient pas des mêmes horizons culturels et ou sociales que moi. Et je crois que ça me manque profondément parce que voilà, j'adore les liens, j'adore être au contact de gens qui me ressemblent, mais aussi qui ne me ressemblent pas. Depuis, je réfléchis sur le collectif et je recherche des espaces de rencontre, de liens pluriels. Et pour mon côté militante, c'est mon chat qui s'en occupe en faisant ses griffes sur un magnifique portrait du gouvernement Macron imprimé sur un paillasson.
On continue le tour de plateau avec la phénoménale Enora.
Salut Lilia, bonjour à tous. Dans le bingo des privilèges, moi je suis pas loin du carton complet puisque je suis une femme blanche, cisgenre, valide, avec un bagage culturel pas mauvais. Et je suis ravie de revenir en studio pour cette nouvelle émission qui sera un super prétexte pour moi de parler autre chose que de mon bébé chien tout neuf et apprendre des trucs et rencontrer des gens cool et vous faire découvrir de super pépites culturelles. Donc ça en fait des choses.
Et probablement pour la seule et unique fois de l'année, vous allez entendre la douce voix de Léo qui assure exclusivement la technique. Alors attention, ouvrez bien vos esgourdes.
Salut.
Merci Léo.
Merci.
Merci, je sens que cette année va être riche en luttes, en discussions et en découvertes. C'est vrai que l'ambiance générale du pays est assez sombre, mais on ne compte pas baisser les bras, et si on peut insuffler un peu de cette motivation dans vos oreilles, alors on aura fait notre travail. Parce qu'on va parler de quoi ici, et surtout comment ? Céleste, tu peux nous éclairer de ta torche ?
Je reprends le flambeau pour vous expliquer le concept de l'émission. Vous noterez la magnifique métaphore filée du feu de bois, on a bien bossé. Alors Siamotutex, c'est quoi ? Est-ce que vous connaissez le fameux Siamotuti antifascisti qu'on chante et qu'on clappe en manif ? Ça ressemble à ça. Siamotuti antifascisti, c'est un slogan qui est né en Italie dans les années 20 et qui signifie « Nous sommes tous antifascistes ». Siamotuti, ça veut dire « On est tous ». Siamotutex, ça pourrait vouloir dire « On est tous ». C'est un cri de manif, de revendication politique. On est antifasciste et on est en lutte. Par exemple, on l'a crié 20 fois en manif au lendemain des résultats des européennes. Mais pour nous, ça veut aussi dire qu'on est tous antifascistes dans nos quotidiens. Les antifas, c'est pas seulement des mecs habillés en noir qui lancent des cailloux sur des boucliers et qui défoncent des abribus. Les antifas, c'est surtout tous ces gens qui font du lien dans leur quartier, en organisant des tournois de foot, des cantines solidaires. C'est toutes ces personnes qui racontent leurs identités alors que le libéralisme colonial tente de les effacer. Les antifas, c'est nos copains qui chantent en manif. Antifasciste, c'est vraiment pas un gros mot, en fait. On a eu l'idée de l'émission en juillet dernier, après un mois de campagne électorale assez intense, passé et argumenté chaque jour. Alors non, les extrêmes ne se valent pas quand l'un veut noyer des gens dans la Méditerranée et l'autre augmenter les impôts des plus riches. Donc après tout ça, l'idée, c'est vraiment pas de lister toutes les bonnes raisons de déprimer, tout ce qui va pas, tout ce qui menace notre existence, tout ce qui nous angoisse. Pour ça, on a déjà les notifications Mediapart. Non. Nous, on veut sortir de l'énergie, du mouvement. On veut aller à la rencontre des personnes qui agissent, qui font du lien, qui au quotidien proposent d'autres narratifs que ceux qu'on entend sur CNews. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est d'entendre des personnes qui ne se revendiquent pas antifascistes. Notre projet, est-ce que j'ai encore le droit de dire notre projet ?
Pas sûr.
C'est de vous montrer à vous, chers auditeuristes, que la lutte contre le fascisme, elle est partout, qu'elle est belle, et qu'en fait, on est déjà dedans. Parce qu'il y a ça aussi. On a l'impression d'être face à une avalanche et d'être armé de 2-3 palettes récupérées sur un trottoir. On lit le CV des ministres du nouveau gouvernement et on se dit « Mais c'est pas possible, rien ne va. Il faut être sur tous les fronts, on va jamais y arriver. Et puis moi, je sais pas faire. Déjà, aller en manif, c'est pas facile. J'ai jamais lu Foucault, j'y comprends rien et j'ai peur de la police. Est-ce que je suis assez militant ? Est-ce qu'il y a une formation, un diplôme ?» Stop. Oui, le fascisme fait peur. Il est déjà bien installé dans les sphères dirigeantes. Il séduit de plus en plus. Mais l'antifascisme aussi existe et convainc depuis longtemps. On trouve plein de livres, de podcasts, de documentaires, de conférences qui détaillent ses théories et ses outils. On ne part pas de zéro et on ne part pas seul. J'ai l'impression d'être une bisounours à vous dire ça, mais promis, on en est vraiment convaincus. Donc Siamotutex, c'est tout ça. C'est la peur du fascisme, la volonté de s'organiser vite et fort et la conviction qu'on en est tous capables. Pendant cette année, on ira donc rencontrer des personnes, des collectifs et des lieux qui luttent contre le fascisme. Oui, ok, mais ça veut dire quoi, lutter contre le fascisme, me direz-vous ? C'est en terrasse, autour d'un café, qu'on s'est souvenu d'Umberto Eco et de son discours « Reconnaître le fascisme », dans lequel il liste, en 1995, 14 éléments qui constituent, d'après lui, des basculements vers le fascisme. Louise vous présentera le livre en détail juste après, mais l'idée, c'est d'utiliser ces éléments comme fil rouge de l'émission. Par exemple, Eco écrit qu'un des éléments du fascisme éternel, c'est refuser la critique, limiter la complexité de pensée. Ben, du coup, des personnes qui organisent des arpentages, qui montent des festivals sur les identités queer, qui investissent des outils d'éducation populaire. Bah, toutes ces personnes-là, elles participent à la lutte contre le fascisme, dans le sens où elles viennent apporter de la nuance, elles mettent en lumière des vécus, des identités non dominantes. Elles ouvrent du temps et de l'espace pour se questionner, se tromper, critiquer, réfléchir, décortiquer. Je sais pas vous, mais moi j'ai trop envie qu'elles nous racontent. Notre idée, c'est pas de faire un cours sur le fascisme et l'antifascisme en 14 points. On ne cherche pas à se prendre au sérieux. On sait même pas vraiment comment ça s'écrit, fascisme. Est-ce que c'est SC ou c'est CS ? Moi je sais jamais. C'est plutôt de rencontrer des gens chouettes, de se questionner et de se former sans déprimer. Le tout en vous le partageant ici sur Prune. Moi, j'ai vraiment trop hâte de découvrir avec vous où nous mènera ce concept d'émission.
Merci Céleste, on va faire une première pause musicale. Cette année, on vous a concocté une playlist enflammée et on vous laisse profiter en commençant par un grand classique qui va vous faire lever de vos sièges et gueuler chaque parole. C'est La Boulette de Diams.
Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel.
Alors ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets,
sortez les briquets.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il est plus à casser des vitrines. J'suis pas la mairie, j'suis qu'une artiste en devenir, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macare, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat. Comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'Al Capone, comme un goût de hardcore,
hardcore
dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de Démédémago dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
Vous êtes de retour sur Prune 92 FM dans l'émission Siamoutoutex, où on explore l'antifascisme pour tous, tous les premiers samedis du mois. Et c'est Enora qui prend la main sur cette partie.
Et oui, parce qu'on n'a pas encore tout dit, pour se lancer sur un sujet aussi touffu que l'antifascisme, il y a quand même 2-3 définitions à poser. Mais avant de partir dans le dictionnaire Larousse, c'est quoi pour vous le fascisme et comment vous le comprenez, le ressentez ? Lilia, est-ce que tu veux commencer ?
Ok. Le fascisme, pour moi, c'est de la vase putride, du genre qui s'installe insidieusement et qui te colle aux pieds jusqu'à t'empêcher d'avancer. À la base, je l'ai étudié sur les bancs de la fac, sur des vieilles diapos, avec des photos en noir et blanc et des enregistrements grésillants. Puis j'ai appris à le reconnaître dans mon quotidien, avec la montée du FN, le seul truc qu'on a le droit d'être aimé, et la diffusion de ses idées à d'autres sphères politiques. Mais parler de retour du fascisme a longtemps été perçu comme extrémiste. On nous disait qu'on exagérait, que c'était un raccourci, qu'on ferait mieux de revoir nos cours, que ni le racisme ni le sexisme n'étaient systémiques dans ce pays et qu'il fallait savoir nuancer. Alors aujourd'hui, ce fascisme vaseux, bah, on l'a en 4K et en Dolby Sound System sur nos écrans tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus.
Et Louise, et toi, comment tu te le représentes ?
Mais moi, je me le représente comme une recherche de pensée unique, sans nuance, sans diversité. Une pensée qui s'imposerait par la force, par la peur, par l'exclusion, par l'absence de débat, de relation aux autres, qu'on vienne du même endroit ou non, que l'on pense la même chose ou non. Genre, je crois que je le vois comme un manque profond d'empathie et d'écoute. Je l'imagine aussi comme une idéologie qui parlerait d'une racine unique, genre nos ancêtres les Gaulois ou les Romains ou whatever, en écrasant toute autre origine sans prendre en compte les métissages, les rencontres. C'est aussi pour moi un refus de la relation, du lien. L'autre nous construit, nous influence, qu'on le veuille ou non. Il vient nous décentrer, nous remettre en question sur nos certitudes. Et il y a toujours un avant et un après, qu'on ne peut pas totalement maîtriser. Il y a quelque chose de très organique. Donc pour moi, le fascisme, ce serait une tentative de contrôle absolu de l'autre, et donc de nous, pour ne pas se mélanger, pour ne pas se rencontrer. Je pense aussi que le fascisme est relié à une idée de groupe, de collectif. Pour moi, le fascisme, c'est une dynamique collective, et non le résultat d'un seul être humain. Il faut un bon terreau, quoi. Un dirigeant fasciste est un dirigeant qui sait mener une foule qui attend.
Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire après ça? Héloïse, toi, tu le vois comment?
Moi, quand on me parle de fascisme, je me représente aussi les diapos dont tu parlais, Lilia, tout en noir et blanc. Et puis aussi, un truc très actuel et bien, bien flippant, c'est les commentaires sur les réseaux sociaux. Dans mon travail, je passe pas mal de temps à suivre l'actualité et l'actu sur les réseaux sociaux, c'est presque un monde parallèle. Je suis vraiment choquée, notamment sur X, par le déferlement de haine qui, sur quasi tous les sujets abordés et quasi tous les jours. Je suis choquée aussi par le niveau de désinformation et l'avalanche de contenu masculiniste sur les réseaux. Ça en devient vraiment suffocant, cette avalanche. Enfin, c'est fou. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble dans l'émission dans l'année, donc j'en dirai pas plus.
Ouais, je pense qu'on va pouvoir en faire un sujet de l'information et des réseaux sociaux. Et toi, Céleste, tu penses à quoi quand tu entends le mot fascisme ?
Alors moi, le fascisme, ça m'angoisse. Et je crois que ça m'angoisse depuis 20 ans. Voilà. Quand j'avais 11 ans, je voulais être Diams. Donc il y a 5 minutes, j'étais au max. Et j'ai retrouvé des poèmes contre le Front National dans mes cahiers à fleurs datés de 2007. Et en fait, je crois que le fascisme, ça m'angoisse parce que je ne le comprends pas. Enfin, vraiment, je me sens totalement démunie face à quelqu'un ou quelqu'une qui hiérarchise des vies ou qui s'en fout. Et mes plus grandes crises de panique, elles sont liées à ce qui tourne pas rond dans le monde. Le racisme systémique de la police, la militarisation des frontières, les génocides, les injustices. Fun, quoi, finalement.
Désolée, j'ai rien écouté depuis des poèmes contre le Front National, donc tu seras obligée de nous les lire à l'antenne, je pense. Alors, je vais peut-être passer pour une naïve après vous, mais pour moi, le fascisme, ça a longtemps été dans le domaine de l'histoire avec un grand H ou de la fiction dystopique, des fictions que j'ai adoré dévorer pendant mon adolescence. C'est seulement il y a quelques années, en politisant davantage, en diversifiant mes sources d'informations par des médias alternatifs notamment, et en fréquentant des milieux militants que j'ai réalisé que le fascisme était déjà là et dans notre quotidien. Mais bon, puisque vous m'obligez à sortir encore un peu plus de mon déni, je suis allée creuser un peu pour vous donner une définition du fascisme. Et oui, car pour explorer l'antifascisme, il faut d'abord comprendre ce qu'il n'est pas et donc définir le fascisme. Enfin, peut-être que c'est le fascisme qui est anti-antifasciste, qui de l'œuf ou de la poule, moi je sais pas, je suis pas là pour ça, j'ai juste cherché des définitions sur internet. D'ailleurs, je vous lis la définition Wikipédia. Le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. Écoutez la suite car j'ai trouvé que c'était assez intéressant la façon dont c'est formulé et assez utile pour la suite de la définition que je vais vous donner. Le fascisme a trouvé dans les circonstances économiques et historiques de l'après-Première Guerre mondiale le contexte qui lui a permis d'accéder au pouvoir d'abord en Italie dans les années 20 avec Mussolini, puis sous une variante accentuée militariste en Allemagne dans les années 30. Dans cette phrase, le fascisme est présenté comme une entité à part entière, une sorte de blob venu se nourrir d'un contexte pour grandir. Et il n'est pas seulement rattaché à Mussolini et aux années 20. Et cette façon de penser un fascisme antérieur au régime de Mussolini et au nazisme, ça permet de ne pas le reléguer seulement au livre d'histoire, mais de le comprendre aussi dans sa réalité protéiforme. Vous trouvez ça vraiment flou comme définition ? Et vous avez raison. C'est toute la force du fascisme, être flou, un totalitarisme sans idéologie à proprement parler, sans consistance, mais tout en slogan, comme une sorte de barbe à papa opportuniste. Hup hup hup, barbe à franquisme.
Ça, c'est du slogan.
Un concept flou donc, mais dont on peut quand même cerner quelques contours. C'est un projet politique fondé sur une vision profondément inégalitaire de la société qui gagne en puissance par la peur et non par les arguments. Et ce projet politique qui n'en est pas un se pose comme providentiel, comme seule option qui pourra sauver le monde en train de s'effondrer. Et c'est pour cela que le fascisme a tendance à ressurgir, notamment lors des périodes de crise. On va pouvoir cerner encore davantage les contours et les ingrédients clés du fascisme grâce à Umberto Eco qui, dans son livre, donne les critères pour discerner ce qu'il appelle l'urfascisme, donc UR fascisme, le fascisme primitif et éternel. Mais pour ça, je laisserai la parole à Louise qui vous parlera un peu plus de Umberto Eco et de son livre.
Merci pour cette mise au point. Je crois qu'on repart tous avec un plus gros bagage sur la route de la lutte antifa.
Nous sommes souveraines, nous sommes souveraines, nous sommes souveraines, nous qui transformons la haine. Nous sommes souveraines.
Siamoutou Tex, l'antifascisme pour tous au quotidien.
Nous sommes souveraines, nous qui transformons la haine.
Il est temps de rompre ce suspense insoutenable et de vous dévoiler ces fameux 14 points que vous attendez tous et vous parler un peu plus de l'homme qui les a écrits. Louise, c'est toi qui étais chargée des recherches ce mois-ci ?
Tout à fait. Alors, je vais vous faire un petit exposé bien chiant. Non, je rigole, je vais essayer de prendre ça digeste. Donc, Umberto Eco naît en 1932 en Italie, à Alexandrie, pas en Égypte, au centre du triangle que forment Turin, Milan et Gênes, donc en Italie. Philosophe, sémioticien, écrivain et universitaire, oui, le gadjo est une tête. Il est connu pour son premier roman, Le nom de la rose, sorte de polar médiéval qui révèle au grand public son goût de la remise en question, du doute face à des discours ascétiques et sa recherche de la vérité. J'ai découvert que dans son premier appartement à Milan, il y stockait 30 000 livres, dont certains dans une chambre de conservation. Autant vous dire qu'il ne faisait pas les choses à moitié et que moi qui me pensais grande lectrice, ça m'a bien remise à ma place. Bref. Il a écrit une cinquantaine de livres, entre essais et romans, durant toute sa vie, mais aussi des chroniques dans différents hebdomadaires. Il meurt le 19 février 2016, à l'âge de 84 ans, à Milan, en Italie. Alors revenons à Reconnaître le fascisme, ce petit livre d'une soixantaine de pages, est donc un discours que Umberto Eco prononce le 25 avril 1995 à l'Université de Columbia à New York, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération de l'Europe. Alors, comment un jeune garçon éduqué sous l'influence de l'idéologie fasciste de la dictature mussolinienne, se retrouve à décrire sous 14 points ce qui peut caractériser le fascisme. Alors, pour commencer, il le dit très clairement, la découverte de la réalité abominable de l'Holocauste, de la colonisation ou encore de la dictature mussolinienne l'a poussé à remettre en question tout ce qu'il avait pu apprendre enfant. Peut-être son goût des études et de la réflexion, mais on sait tous ici que les études longues ne mettent certainement pas tout le monde à l'abri d'une pensée fasciste. Mais je crois que, comme il l'explique clairement lui-même dans différents passages de Reconnaître le fascisme, il semblerait que c'est bien sa sensibilité à la diversité de points de vue et d'idées dont est constituée la liberté qui semble le pousser à dénoncer et à traiter la question du fascisme.
On vous propose d'entendre les 14 points. On précise juste qu'ils constituent des basculements et pas une recette exhaustive. Si un élément apparaît dans une société démocratique, le risque fasciste existe. Et des éléments de la liste peuvent être contradictoires, le fascisme peut prendre et a pris plusieurs formes.
Vous êtes prête ? Et prête ?
Oui.
Le culte de la tradition.
Le conservatisme est donc le rejet du modernisme.
Le culte de l'action pour l'action.
Le rejet de la critique analytique.
Le racisme est l'exacerbation de la peur.
L'instrumentalisation de la frustration individuelle ou sociale.
Le nationalisme.
Le mythe de la puissance et de la richesse de ses ennemis.
La vie vouée à la lutte.
L'élitisme populaire.
La figure du héros.
Le machisme et la queerphobie.
Le populisme sélectif.
L'utilisation de la novlangue.
Ah, je sais pas vous,
mais c'est heureusement qu'il n'y en a que 14.
Quoi ?
Heureusement qu'il n'y en a que 14. Non, oui. Moi, j'aurais pu continuer.
Ah, je sais pas vous, mais cette dissection du fascisme sous toutes les coutures, ça m'a enragée encore plus. Oui, même avec une petite musique d'ascenseur derrière. Et j'ai qu'une envie, c'est de sortir tout cassé. Et ça tombe bien, on a pile le son qui va vous permettre de vous défouler et retrouver le sourire avec La Noche Vita de Barbara Butch.
La nuit va enfin se lever, les créatures s'en vont danser. C'est l'heure de la Noche Vita, et moi j'aime ça, et moi j'aime ça. Les corps transpirent pour oublier les mots, les cons de la journée. T'es grosse, t'es moche, et féminé, mais moi j'aime ça, oui je t'aime comme ça. Sur la piste on oublie tout ça, sur la musique de Barbara. Si tu te voyais comme je te vois.
Dieu que t'es belle. On s'en fout que ce soit il ou elle. Jamais rien vu d'aussi beau que ça. Et moi j'aime ça, et moi j'aime ça. Je regarde ma montre, minuit moins 12. Les filles se font du bouche à bouche sur la route au Niagara. On aime tout ça, on aime tout ça. Sur mon portable, minuit 17. Le temps passe vite quand on se répète. Les enfants libres ne s'arrêtent pas. Et moi j'aime ça, et moi j'aime ça.
Nous sommes toujours autour du feu de Siamoutoutex sur Prune 92 FM. Héloïse, je me tourne maintenant vers toi pour la suite de l'émission. Alors je... Mais Héloïse, c'est quoi tout ça? Pourquoi tu nous as fait un décor à la question pour un champion?
Eh bien, ma chère Lilia, c'est pas parce qu'on parle d'un sujet un peu plombant depuis le début de cette émission qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Alors, jingle. Bienvenue dans ce quiz. Le principe est simple. Vous l'aurez compris, Siamoutoutex va explorer toute l'année des manières de lutter contre le fascisme dans la vie de tous les jours, en se basant sur des réflexions d'Umberto Eco qui établit une liste de 14 caractéristiques d'un régime fasciste. On l'a écouté. Alors, pour mémoriser un peu les points que l'on vient d'entendre, on va se questionner sur les choix politiques de ces dernières années. On va se demander, tout ensemble, si ces choix politiques, ils ne sont pas un peu un glissement plus ou moins évident vers une forme de fascisme. Bon, comme je suis sympa, je vais vous donner des propositions. Est-ce que vous êtes prêtes?
Oui,
oui. Oui.
C'est parti. Première question. La loi Asile-Immigration de janvier 2024. Je suis, une loi présentée par le ministère de l'Intérieur comme une loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Et par la CIMAD, comme l'une des plus répressives de ces 40 dernières années. Elle constitue, d'après eux, un cap supplémentaire et des atteintes sans précédent aux droits des personnes migrantes. D'après vous, à quelles caractéristiques d'un régime fasciste, selon Umberto Eco, cette loi pourrait-elle correspondre? Petit A, l'exacerbation de la peur. Petit B, l'élitisme populaire. Petit C, le rejet de la critique analytique. Est-ce que vous voulez faire appel à un ami? Allez, qui se lance?
Moi, je dirais l'exacerbation de la peur.
Ok, pourquoi?
Ça va propager énormément de fake news, notamment sur, là, je pense à l'AME, l'aide médicale d'État, où ça fait des années que la droite essaye et l'extrême droite essaye de la virer. Donc, c'est ce à quoi ont droit les gens quand ils n'ont pas de papier pour être soignés un minimum. Et ça coûterait à l'État. Alors que c'est juste sauver la vie de personne et ça coûterait encore plus cher si justement on la supprimait. Enfin bref, c'est que ouais. De la fake news pour dire qu'il y a des espèces de parasites alors que les parasites sont tout en haut.
Est-ce que l'une de vous a une autre réponse?
Moi, je dirais réponse B, l'élitisme populaire.
Pourquoi ?
D'après ce que j'ai compris de Umberto Eco, c'est l'élitisme populaire, c'est de dire nous, on est trop forts, nous, on est les meilleurs, et surtout, faut pas se laisser contaminer par tous ces oh tiens, parasites
qui pourraient un peu ensemble.
qui pourraient arriver et passer à travers nos super frontières et contaminer, je ne sais quoi. Bref, non, merci. Mais du coup, je pense que ça peut aussi partir de là de oh, mais tu sais, on peut pas héberger toute la misère du monde, faut aussi qu'on protège les Français, les Françaises.
Effectivement, il n'y a pas, bon, il n'y a pas une réponse universelle à ce quiz, mais la CIMAT, toujours elle, écrit à propos de cette loi. Son parcours législatif est emblématique de l'obsession de faire des migrations une prétendue menace, tu le disais, Lilia, pour nos sociétés, de réprimer les personnes étrangères, de jouer sur les peurs au détriment des droits fondamentaux. Alors oui, vous avez toutes les deux plutôt raison. Hein. Cette loi, on pourrait dire qu'elle glisse, qu'elle nous fait glisser tout doucement. Vers au moins l'exacerbation de la peur et l'élitisme populaire. Est-ce que vous êtes prête pour une seconde question ?
Oui !
Allez. Celle-ci n'est pour le moment restée qu'à l'état de proposition de loi, et heureusement. Mais elle a tout de même été adoptée par le Sénat le 28 mai dernier, avant que Macron n'arrête son parcours législatif par sa carte « dissolution ». Bam ! Retour à la case départ, sans passer par le parking gratuit. Bref. Revenons-en à la proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains. Au programme, interdiction de toutes les transitions médicales aux mineurs et élaboration d'une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie, mais tout ça seulement dans le cadre des questions de transidentité. D'après vous, j'essaye de prendre un ton rigolo, mais ça n'est pas trop. D'après vous, vers quelles caractéristiques d'un régime fasciste on glisserait avec cette proposition de loi ? Petit A. Le conservatisme est donc le rejet du modernisme. B, le machisme et la queerphobie. C, la novlangue. Alors, une idée ? Enora ?
Bah, moi, je dirais clairement le machisme et la queerphobie, évidemment, parce qu'il y a queerphobie dedans, du coup, ça facilite le truc. Et machisme, parce que tout ce qui sort de... De la binarité homme-femme, ça met en danger les privilèges masculins, simplement.
Yes. Est-ce que quelqu'un veut rajouter ?
Moi, j'aurais dit... Et aussi, en fait, le conservatisme, parce que ça passe pour du modernisme, d'être tolérant envers des personnes qui sortiraient de cette fameuse binarité.
Ouais.
C'était quoi exactement la proposition de loi ?
Pour les mineurs.
Ah oui.
Moi, je trouve que ce qui est super avec cette proposition de loi, que ça peut être les trois. La novlangue, on se fait insulter de woke, c'est la transmania, c'est des termes qui n'existent pas, qui ne veulent rien dire.
Ils inventent une langue, clairement.
Du coup, en fait, ce sont des personnes qui existent, qui ont le droit d'exister, laissez-les vivre. Je suis énervée.
Ouais. C'est clair. C'est un peu les trois, mais c'est surtout un glissement, une espèce de ventriglisse complet vers la transphobie, en fait. J'aimerais vous lire une partie de l'avis qu'a rendu la défenseure des droits à propos de cette loi. L'interdiction des transitions médicales risque de porter atteinte au droit à la santé des mineurs trans et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, en interdisant les bloqueurs de puberté et les traitements hormonaux aux seuls mineurs trans, la proposition de loi introduit une différence de traitement entre personnes transgenres et cisgenres. Et donc, une discrimination. Enfin, leur grande mobilisation pour la pédopsychiatrie interroge dans ce cadre très précis. Il est très important de le rappeler que la transidentité n'est pas une pathologie. Allez, question d'actu pour terminer et gagner le jackpot. La semaine dernière, Antoine Armand, nouveau ministre de l'économie, a affirmé dans une interview que le RN ne faisait pas partie du désormais fameux arc républicain. Ni une ni deux, il s'est fait recadrer par le Premier ministre après un appel de Marine Le Pen et a rétropédalé. Petit A, dédiabolisation et rejet de la critique analytique ? Ou petit B, dédiabolisation et rejet de la critique analytique ? Quel est votre choix ?
Compliqué.
Trop dur.
Réponse C.
Est-ce qu'on peut redire ce que ça veut dire critique analytique ? Parce que moi, je ne suis pas sûre de l'avoir bien compris et je ne l'ai pas creusé depuis que j'ai lu le bouquin, j'avoue.
C'est on établit des vérités une fois pour toutes et elles deviennent intouchables. Et si tu les remets en question, c'est que tu es armé de mauvaises intentions et pas juste armé de la science, d'arguments factuels et rationnels.
Ah, très bien.
Du coup, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement ne peut plus qualifier d'extrême droite, l'extrême droite d'extrême droite, parce qu'il a, choisi de collaborer avec elle pour éviter de se faire censurer. C'est ce que dit la journaliste Salomé Sake à propos de cette polémique. Et elle ajoute « Nous sommes collectivement les témoins de bouleversements politiques profonds ». Et je pense que dans le studio, on est toutes d'accord pour le dire. Allez, bravo! Vous avez su reconnaître toutes ces alertes. Maintenant, il va falloir écouter les prochaines émissions pour s'inspirer de celles et ceux qui rendent le fascisme aussi ringard que le premier épisode de Motus.
Frédéric, pour commencer, on l'applaudit très très fort puisque c'est la seule femme.
Boomer.
Merci pour ce jeu endiablé. Vous avez gagné un décapsuleur CGT ainsi que les 25 tomes commentés de l'encyclopédie antifascistis. Retrouvez vos bons cadeaux dans les magasins participants jusqu'au 5 octobre. Non mais Céleste, tu peux baisser la main, hein, le jeu est fini.
Oui, non mais pardon, mais en fait je sais, j'ai dit il y a 30 minutes que je voulais pas parler des personnes qui se revendiquent au effort antifasciste en collant des stickers sur les arrêts de bus, mais est-ce que je peux quand même glisser 2-3 trucs tant qu'on est sur les définitions, s'il te plaît.
Oui, vas-y, on est toutes oui.
Oui. Alors attention, niveau zéro de l'analyse politique, c'est parti. Comment on est passé de l'adoration la plus totale pour des personnages comme Jean Moulin à considérer les antifascistes comme de dangereux terroristes ennemis de la démocratie? Depuis quand antifasciste, c'est un gros mot? Depuis quand être contre le fascisme, c'est une posture radicale et pas la base? La dédiabolisation du RN, les concepts racistes et sécuritaires puants repris à leur sauce par les gouvernements successifs. Tout ça, ça a rendu la menace de l'extrême droite moins tangible dans nos esprits. On perçoit alors les antifas comme des énervés qui cherchent un prétexte pour porter des docs et taper sur des mecs au crâne rasé. Des gens sans théorie ni analyse politique. Figurez-vous que ce n'est pas le cas. Je vous l'avoue, ici sur Prune, cette semaine, je suis tombée dans un vortex de recherche antifasciste. J'ai passé tout mon temps libre à regarder des documentaires, écouter des podcasts, lire des bouquins sur l'antifascisme. J'ai appris plein de trucs et j'aimerais en partager quelques-uns avec vous. Déjà, ce que j'ai compris, c'est que l'antifascisme, c'est pas seulement être contre le fascisme ou contre l'extrême droite. Il y a certes une dimension d'autodéfense face à la violence fasciste, qu'elle soit physique ou politique, mais c'est aussi et surtout proposer un projet politique et social fondé sur les principes d'égalité, d'émancipation et de solidarité. Ensuite, petit point historique. S'organiser contre les nationalistes et contre les antisémites, ça existait avant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est seulement en 1922, avec l'arrivée des antifascistes italiens et italiennes qui fuyaient l'Italie de Mussolini, qu'on parle en France d'antifascisme. C'est là que le mot apparaît, en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, les institutions gaullistes et communistes alimentent le mythe d'une France résistante et entretiennent un antifascisme commémoratif. Des fleurs sur la tombe de Jean Moulin, le chant des partisans, en veux-tu, en voilà, tout ça, le fascisme, c'est fini, d'ailleurs même qu'on a gagné la guerre, Vichy, on connaît pas, allez, on passe à autre chose. Sauf que, la France est une puissance coloniale et que la justice et l'égalité, c'est bien, mais sûrement pas pour tout le monde, sinon après c'est le bazar. La guerre d'Algérie et les horreurs commises par l'OAS ravivent les mouvements antifa qui prennent une dimension décoloniale. Dans les années 70, les mouvements fascistes comme antifascistes se disputent les bancs de la fac. Face à la naissance du GUD, alors eux c'est un groupe d'extrême droite, c'est pas des copains, dont une partie fonde le Front National. Vraiment pas marrant ce jeu de poupées russes. Et bien face à tout ça, les antifascistes s'organisent. Mais les institutions leur préfèrent un antifascisme républicain, fondé sur l'amitié entre les peuples et le respect de la démocratie, et non l'offensive des idées. Et vraiment, les communistes qui crient « fasciste » à chaque ennemi politique, ça aide pas non plus. Bref, les années 80, c'est d'un côté les 12 années de réhabilitation de l'extrême droite dans le paysage politique, et de l'autre, la coordination au niveau national des groupes antifa autonomes. Dans les années 90, on voit trois visions de l'antifascisme coexister. L'antifascisme radical et autonome, en gros, les mecs qui écoutent du rock alternatif en faisant des pogos. L'antifascisme frontiste, en gros, toute la gauche contre le FN, à bas le capitalisme, vive le rouge. Et l'antifascisme électoraliste, en gros SOS Racisme et leurs copains qui louent les mérites du Front Républicain et pour qui tout se joue aux élections et puis basta, bravo, on a fait du super boulot. Quoi, la pauvreté, la précarité, les violences, on n'entend pas. 2002, mauvaise année pour les antifascistes. Le barrage républicain, les dérives sécuritaires de la droite au pouvoir, on découvre Sarkozy, on l'embrasse, non. Pendant ce temps-là, les antifas découvrent les contre-sommets et les ZAD. Oh, c'est chouette, le saut gestion et le maraîchage. Et depuis on baigne dans les mêmes eaux. les médias renvoient deux à dos les deux extrêmes, je fais des air guillemets. Les fachos ont colonisé Internet, la caricature des black blocs sans cervelle fait la une, le RN est complètement décomplexé et la police tue. Fun, fun, fun. Oui, je sais, j'avais dit pas de déprime. Je sais pas comment terminer cette chronique. Si, je sais. Pendant un an, justement, on va aller rencontrer plein de gens qui réfléchissent, qui proposent et qui incarnent ce projet social et politique fondé sur l'égalité, la justice et la solidarité. Et ça va être super.
C'est clair que ça va nous apporter la joie militante dont on a bien besoin en ce moment. Et c'est ce qu'on voulait faire avec cette émission, parler des luttes qui existent, des victoires à célébrer, savoir qu'on sera toujours plus forte, quoi qu'il arrive. Mais même si on garde notre optimisme, il reste que dans quelques jours, on aura une terrible date à commémorer et dont on ne pouvait pas ne pas parler dans cette émission. Merci Céleste pour la force des mots que tu y apposes.
Aujourd'hui, on est le 5 octobre 2024. Et depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne bombarde Gaza et tue. Vous connaissez les chiffres. Selon Euromed Human Rights Monitor, l'armée israélienne a tué 50 000 personnes à Gaza. Selon The Lancet, le nombre réel de personnes tuées s'élevait à 186 000 en juillet dernier, soit presque 8% de la population du territoire. Depuis 1948, Israël colonise et met en œuvre un nettoyage ethnique en Palestine, dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie et en Palestine occupée. Depuis une semaine, Israël bombarde le Liban. L'armée a déjà tué 700 personnes et 1 million de Libanais et Libanaises ont été déplacés au moment où on enregistre l'émission. Depuis 1948, Israël implémente un régime d'apartheid fondé sur des contrôles policiers discriminatoires, des détentions administratives arbitraires, des expulsions, des intimidations et des excursions militaires. L'État d'Israël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un projet colonial, un projet fasciste. Si on reprend la liste d'Umberto Eco, on peut cocher le culte de l'action pour l'action, le rejet de la critique analytique, le racisme et l'exacerbation de la peur, le nationalisme, la vie vouée à la lutte et l'élitisme populaire. Si on reprend les critères des militants et militantes antifascistes, on retrouve un gouvernement autoritaire et une société fondée sur un principe d'inégalité. L'objet de cette chronique n'est pas de vous faire un cours sur l'État d'Israël et le projet sioniste. Il existe de nombreuses ressources qui détaille de façon argumentée et factuelle les agissements illégaux et immoraux de l'État colonial. On peut se sentir démuni face à un État fasciste qui joue d'une impunité presque totale vis-à-vis du droit international. On peut se sentir isolé quand appeler à la fin du régime colonial et à la justice nous range selon certains et certaines du côté des radicaux extrémistes. Mais la Palestine sera libre. Elle sera libérée du joug colonial. Tous les Palestiniens et Palestiniennes seront libres de retourner dans leur village, de reconstruire leur maison et de vivre libres et égaux avec les personnes qui vivent sur le même territoire. La seule issue, ce n'est pas, et il est scandaleux de le rappeler, qu'Israël bombarde tout le Moyen-Orient et assassine ou chasse toute présence arabe au sein des frontières d'un territoire inventé. La seule issue, c'est la justice. C'est la fin de la colonisation, la libération de la Palestine de la mer au Jourdain et la mise en place d'un État fondé sur des principes d'égalité, de justice et de liberté. La lutte contre le fascisme est fondamentalement décoloniale. Notre responsabilité en tant que personnes vivant en France, c'est pas de décider quelle est la bonne stratégie, les bons moyens de se libérer ou de mener la résistance. Notre responsabilité, c'est de dénoncer, de jamais accepter l'injustice, de mettre nos gouvernements face à leurs responsabilités militaires et diplomatiques. C'est boycotter les industries et entreprises qui sont complices de la colonisation. C'est être en réelle solidarité avec les Palestiniens, les Palestiniennes, les Libanais, les Libanaises et tous les peuples soumis à un régime colonial. On souhaite montrer dans l'émission que la lutte contre le fascisme peut être joyeuse, mais ça ne signifie pas que le risque fasciste n'est pas sérieux et que les enjeux ne sont pas énormes.
On abordera bien évidemment la question décoloniale au cours de l'année, puisque ça répond directement au point énoncé par Umberto Eco. On peut espérer que d'ici là, le droit international aura eu raison de la complicité criminelle de nos dirigeants, mais en attendant, et parce que l'urgence est aussi de sauver les personnes piégées sous les bombes, vous pouvez participer aux nombreuses cagnottes qui existent via les collectifs nantais et sur les réseaux pour apporter de la nourriture à Gaza ou pour permettre à des familles de fuir le pays.
Nous sommes souveraines, nous sommes souveraines, nous sommes souveraines, nous qui transformons la haine.
Nous sommes souveraines. Siamoututex, l'antifascisme pour tous, au quotidien.
Nous qui transformons la haine.
On arrive à la fin de cette première émission. Merci à vous derrière vos écouteurs, votre poste ou dans votre salon de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. On a mentionné pas mal de ressources dont vous pouvez retrouver les liens sur la page de notre émission sur prune.net pour aller plus loin et vous renseigner par vous-même. On se retrouve le mois prochain pour commencer à traiter les différents points d'Umberto Eco et surtout pour accueillir nos premières et premiers invités. Bisous sur votre point levé et on vous laisse sur l'herbadagramme de Barout.
Salut,
salut.
À bientôt.
Ciao.
L'amor che te spero, guardo la verità. Cal segre l'uriero, lucros del balat. Grano la miserio con fluris lublate. E si latte al vero, che è la libertà. L'amor che te spero, guardo la verità. Cal segre l'uriero, lucros del balat. Grano la miserio con fluris lublate. E se lo sei l'uno, ne per en la fin. Ne per en pasino, cerca Luca min. L'usse tu sembruno del sera al mattino, l'ave sofferuno più di sto canie. E se lo serino, ne per la fin, ne per il pagino, cerca Luca mi. L'usse tu sembruno del sera al mattino, l'ave sofferuno più di sto canie. E si la tallero, che è la libertà, tu viene il muriero, porto la verità. La vita te spero, de cross and balance, tu mi sa miserio con grano rublate. E si la tallero, questa libertà, tu viene il muriero, porto la verità. La vita te spero, de cross and balance, tu mi sa miserio con grano rublate.
Da grande